Histoire d'en savoir plus sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous, au micro Elisabeth Couget. Aujourd'hui, je vous amène en voyage au pays où vont mourir les rêves. En fait, c'est le titre d'une saga sociétale, familiale à la fois, et pour nous guider vers ce pays qui n'est pas imaginaire, mais bel et bien réel, je voudrais vous présenter Olivier Cogen. Bonjour Monsieur Cogen, ou je pourrais dire peut-être bonjour maître, comme vos élèves ont dû vous appeler durant une quarantaine d'années.
Oui, effectivement, j'étais instituteur. Maintenant, on ne dit plus instituteur, on dit professeur des écoles. Mais enfin, oui, j'étais instituteur à Chartres pendant même plus de 30 ans.
Ah oui, d'accord. Ouais. Vous avez terminé votre carrière
J'ai terminé ma carrière comme directeur de l'école de Beaulieu, qui s'appelle maintenant l'école Henri IV.
Oui, joli nom, puisque Henri IV est vraiment lié avec notre belle ville de Chartres, n'est-ce pas? Donc voilà. Bon, donc vous étiez instituteur habitué à transmettre votre savoir et le savoir. Et maintenant que vous profitez d'un repos bien mérité, on peut dire ça comme ça, à travers vos ouvrages, vous continuez à partager vos connaissances que vous essayez d'enrichir encore, j'imagine, en plus. Et vous partagez ça non plus avec vos élèves, mais peut-être avec vos anciens élèves qui sont...
J'espère, oui. J'espère que j'ai lecteurs, d'anciens élèves qui lisent mes livres. Je l'espère. Mais enfin, je transmets à tous les lecteurs qui veulent bien s'intéresser à mon travail. Hein. Je n'ai pas d'exclusive.
En général, les gens qui comptent des connaissances aiment bien. Eh bien, partager, oui, le donner ça aux autres.
Oui, je pense que
c'est un cadeau.
C'est quelque chose de naturel. Quand on a appris quelque chose, quand on sait quelque chose, on a envie de le partager. C'est la base de l'humanisme. Et moi, je me définis comme étant un humaniste.
Un humaniste, voilà. Alors, avant d'arriver à cette saga, qui est le sujet de notre émission d'aujourd'hui, j'aimerais que vous parliez un peu de vous, de votre enfance et de cette envie d'écrire qui, j'imagine, une fois libre de votre temps, ou non, on ne peut pas dire ça. Quand on est à la retraite, on n'est absolument pas libre.
Enfin, on imagine
que vous avez plus de temps. Ouais. J'imagine que votre envie d'écrire a dû prendre des proportions telles que non seulement 3 volumes sont nés déjà, mais vous avez
oui,
déjà écrit
prévus,
avant.
Oui, il y aura un quatrième au mois de septembre et voilà. Probablement un cinquième dans les années à venir. Oui.
Donc c'est en gestation, numéro 4.
Le 4 est écrit, on en est travailler sur la couverture, la quatrième de couverture.
Alors là, c'est déjà...
Le travail d'écriture...
C'est déjà en bois.
Voilà, c'est terminé.
Alors, donc, on disait que vous étiez instituteur. Un instituteur doit vivre au rythme des enfants. Sinon, il va dépasser rapidement. Et pour cela, il faut un entraînement. Alors, j'ai lu quelque part que vous étiez un ancien marathonien.
Être
en rythme avec les enfants n'a pas dû vous poser de problème, non. Mais faites-vous toujours du sport hein?
Ah, je fais toujours, je cours toujours environ trois fois la semaine sur des parcours plus modestes, hein, mais j'essaie quand même de me maintenir en forme. J'ajouterai une chose, je fais un grand parallèle entre le marathon, enfin l'entraînement au marathon et l'écriture. Vous savez, quand vous préparez un marathon, on n'a pas toujours envie d'y aller. Vous rentrez du travail, il pleut. Mais si on veut faire le marathon dans de bonnes conditions, il faut y aller quand même. Il faut se forcer, il faut s'imposer la discipline d'y aller. Et bien, l'écriture, c'est un peu la même chose. Vous savez, le soir, vous êtes un peu découragé, ça n'avance pas bien, les choses ne se font pas bien, n'avancent pas. Mais on se force, on y va quand même, on reprend le travail.
Le travail d'écriture,
on s'impose la discipline d'y aller tous les jours, et c'est comme ça qu'on y arrive. Hein. Mmh. Si on n'a pas une discipline stricte,
on ne peut pas y aller. Comme vous dites, c'est utile d'être en forme, même pour écrire. Alors qu'on imagine qu'un écrivain est assis devant son clavier du matin au soir.
Ah non, moi je peux pas.
C'est
je
pas
peux
du pas, tout. Quel est votre système? Vous écrivez comment?
Alors
debout,
moi,
comme Henri Troyat?
Non. Moi, j'écris plutôt le soir, à partir de 4 heures. J'écris de 4 heures l'après-midi jusqu'à 11 heures le soir, avec une pause pour dîner.
Ah oui, d'accord. Voilà.
Donc
c'est
mon rythme,
moment.
C'est mon rythme d'écriture. C'est le moment où
la vie s'est ralentie.
Voilà, je me sens bien pour écrire à ce moment-là, et c'est le moment où j'écris.
Alors, il faut dire que votre roman, puisque cette saga, bon, c'est un roman, mais il y a plusieurs tomes, à Le pays où vont mourir les rêves, je répète le titre, a paru aux éditions Ella, qui est donc en 2016. Et j'aurais voulu que vous disiez quelques mots de cette édition, puisque bon, il faut les remercier de, d'exister
bien sûr,
déjà.
Bien sûr. Et... les éditions Ella sont une jeune maison d'édition qui a été fondée, je crois, en 2013 par Christophe Pratt et son épouse Véronique, et qui s'était au départ donné comme mission de promouvoir des auteurs d'Eure-et-Loire en racontant des histoires liées au terroir, etc. Et puis les choses allant et allant bien pour les éditions Ella, le propos s'est un peu élargi, et il y a maintenant les éditions Ella se conduisent à peu près l'édition d'une quarantaine de livres par an, donc il y a vraiment de tout, des livres pour enfants, des livres d'histoire, de vraies histoires, des romans, etc.
Mais il faut savoir ça, puisque...
Il faut absolument visiter les éditions Ella. Les livres sont disponibles dans toutes les librairies d'Eure-et-Loire, dans beaucoup de maisons de la presse, etc.
Alors, dès l'écriture et la... Peut-être pas encore la parution, puisque forcément, ça venait seulement après. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. J'aime beaucoup les chats, mais bon, de l'avoir dans ma gorge, ce n'est pas très pratique aujourd'hui. Je voulais vous dire que vous avez tout de suite obtenu le prix du manuscrit de Beauce et
du Noir.
Et voilà, alors vous qui distribuiez des prix dans le temps, quel effet ça fait de recevoir un prix finalement?
Ah ben ça fait très très plaisir, d'autant que c'était le premier manuscrit. Bon, j'avais écrit plusieurs romans, mais qui sont dans mes tiroirs. Et qui resteront. Et là, c'était le premier manuscrit que je soumettais au jugement à la fois d'un éditeur et puis d'un jury. Et donc, mon roman a été distingué. Et évidemment, c'était une très, très bonne surprise. Et puis, dans la foulée, il a été édité. Donc, j'étais extrêmement content.
Et ben voilà, c'est parfait. Je vous en félicite. Et ce qui nous a permis de vous découvrir. Je rajouterai quand même que ce n'est pas le seul prix, puisque vous avez obtenu aussi le prix 2018 des Lions Club du district, et ça concerne une 80 clubs à travers 4 départements. Donc, c'est bien. Ça...
Alors là, je suis particulièrement heureux parce que le système d'attribution du prix des Lions Club, c'est un prix de lecteur. Ce n'est pas un jury qui attribue le prix. Donc, je crois qu'il y avait 250 votants qui avaient donc lu les 3 romans finalistes. Et donc, mon roman a été choisi et ça m'a fait extrêmement, évidemment, encore extrêmement plaisir. Et j'en remercie, évidemment.
Voilà. Alors, je voulais juste dire que connaissant les Lions Club et les livres que nous choisissons, puisque j'en fais partie, je peux vous dire que dès les premières pages, on a dit voilà, ça va être certainement ce livre-là parmi les 3 qui nous ont été proposés. Ouais. Voilà, bon, je vous en félicite aussi, et puis je vous propose une première courte pause musicale, puisque le temps passe, mais voilà, on aimerait écouter quelques... Qu'est-ce que vous avez choisi comme musique?
Eh bien, le premier disque que j'ai choisi, c'est Ma France, de Jean Ferrat.
Et voilà, une belle musique. Alors, à tout de suite.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air.
Je reçois aujourd'hui dans les studios de Radio Grand Ciel Olivier Cogent, écrivain à succès dont la saga intitulée Le pays où vont mourir les rêves, paru aux éditions Ella, a reçu déjà 2 prix. Le prix du manuscrit de Beauce et Dunois, ainsi que le prix des Lions Club. 3 tomes ont déjà paru, mais commençons par le début. Déjà, dites-nous, Monsieur Cogent, en quelques phrases, quel est le thème de cette histoire ?
Alors, le thème de cette histoire, si vous voulez, j'ai un grand intérêt pour l'histoire et je me suis dit que j'allais raconter l'histoire du XXe siècle à travers 2 familles dans un village. Alors, le village, c'est un village cher à mon cœur, Saulnières, qui se trouve à côté de Dreux. Les 2 familles, eh bien, c'est la famille des patrons. Alors, ce n'est pas la vraie famille, c'est une famille romanesque. Hein. La famille des patrons de cette usine rurale. Et puis,
qui existait.
L'usine a existé, bien sûr. Et il en reste d'ailleurs des
morceaux. Ateliers,
elle
peut-être.
Elle n'a pas été complètement rasée. Une partie a été rasée, mais il reste encore des fours, il reste encore des choses qui vont être conservées au titre du patrimoine. Mm-hmm. Et puis, donc, une autre famille, la famille des Calac, une famille ouvrière qui va vivre dans ce pays au rythme imposé par l'usine, parce que l'usine devient un véritable personnage. C'est un personnage central du roman.
Une importance capitale. Hein,
et pour faire roman, effectivement, il va y avoir beaucoup d'interactions entre ces 2 familles. Et la première de ces interactions, c'est l'amitié, complètement improbable, complètement inattendue, qui va naître entre Joseph Calac, oui, le fils de la famille ouvrière prolétaire.
Qui arrive de Bretagne.
Qui arrive de Bretagne, comme mon grand-père d'ailleurs. Et puis Hubert Franquin, le fils des patrons de cette usine, qui sont des grands bourgeois, des gens de la haute société. Donc normalement...
C'est 2 familles que nous allons suivre.
Qu'on va suivre tout au long des 3 volumes déjà parus.
À travers leur vie et notre vie, en fait.
Leur vie et les événements du XXe siècle.
Qu'on avait vécu, voilà, ou que certains ont vécu encore. Alors donc, Saulnières, vous disiez que ce lieu a été choisi parce que c'est votre enfance.
Bien sûr.
Vos vacances,
Mes grands-parents habitaient Saulnières. Mon grand-père était ouvrier à l'usine, non pas Franquin, mais Gourdin, puisque c'était à l'époque, les patrons, les propriétaires de cette usine s'appelaient. C'était la famille Gourdin. Donc mon grand-père travaillait dans cette usine. Mm-hmm. Ma grand-mère a travaillé au château, comme bonne à tout faire. Mm-hmm. Une de mes tantes était bonne d'enfant au château.
Alors moi qui ai lu les 3 tomes, je commence à voir tous les personnages qui doivent se trouver dans vos photos de famille.
Voilà. Et j'ajouterai que 2 personnages importants dans les 3 romans, Paul et Aristide, étaient nommément les deux frères de ma grand-mère.
Mm-hmm. Alors donc c'est une fresque familiale mêlant vraiment habilement les tragédies du siècle précédent dans le quotidien de ce village. Et à côté de la famille d'Étienne Franquin, puisque c'est le nom que vous leur avez attribué, l'industriel et les Calac qui représentent la classe ouvrière, dont l'avenir au fil des pages et au fil des tomes s'éclaircit, change. Il y a un instituteur, Monsieur Sevestre. Voilà, l'écrivain que vous êtes, s'est-il inspiré de cet instituteur que vous étiez ?
Oui, je ne pouvais pas écrire sans évoquer l'école de la Troisième République, historiquement, dans notre histoire, c'est quand même un passage très important. J'ai réinvesti ce personnage en pensant un peu un pédagogue bien connu, au moins pour les gens que ça intéresse, qui est Célestin Freinet, puisque ce monsieur Sevestre va faire la guerre de 14 et va en revenir transformé à la fois physiquement et intellectuellement.
Mmh. Alors, vous parlez aussi de Maurice Violette, que nous connaissons, ne serait-ce que par le boulevard, qui porte son nom à Chartres.
Oui, on sait.
C'est ça. Et c'était donc un député fervent républicain, humaniste. Vous avez dû faire des recherches, parce que finalement, on ne voit pas uniquement l'homme politique, mais l'homme qui a été.
Oui. Alors, Maurice Violette est quand même une très grande personnalité politique et historique du département. Donc, il y a à Dreux un fonds Maurice Violette qui est à disposition et que tout le monde peut consulter. Donc, je me suis inspiré de ce personnage qui a été élu député en 1902 et qui a été président du conseil qui a été maire de Dreux et président du conseiller général et président du conseil général, je crois, jusqu'en 1960. Donc, c'est quand même un personnage politique qui traverse le siècle et qui fait un peu du lien.
Mais je voulais dire qu'avant d'être un homme politique, c'était un homme tout court, qui espérait et croyait dans l'avenir d'un monde meilleur pour les hommes.
Ses ennemis l'appelaient l'extravagant Violette parce que c'est quelqu'un qui portait un regard très critique sur la politique coloniale de la France.
Ouais. Et voilà. Donc, finalement, il a été rattrapé dans l'histoire. Ouais. L'amitié est très présente dans ces trois tomes, et j'imagine dans la suite aussi. C'est très important pour vous, l'amitié?
Évidemment, sans amis, on ne peut pas vivre.
On ne peut pas vivre,
l'amitié, c'est fondamental, essentiel.
On ne choisit pas sa famille, on choisit les amis.
On choisit ses amis, et puis l'amitié est un sentiment qui n'a pas d'ambivalence. Alors on perd des amis parce que la vie nous entraîne, mais l'amitié est fondatrice dans toutes les vies.
Alors le premier tome, chaque tome a un sous-titre. Le sous-titre de ce premier tome, c'est « Dernières nouvelles du monde ». Alors ça se situe entre 1898 et 1914, donc c'est le début, c'est ces premières deux décennies du premier tome. Vous voulez dire ces dernières nouvelles de la paix, d'une époque
avant que tout bascule, se détruise. Donc dans le schéma de général de la saga, il s'ouvre le 2 août 1914 une page qui ne se refermera en novembre 80, qui se refermera plus ou moins en novembre 89 à la chute du mur.
Ouais.
On rentre dans des événements.
En tout cas, un monde a disparu, ça c'est vrai.
Donc un monde s'en va. C'est pour ça que je l'ai intitulé Dernière nouvelle du monde. C'est un monde qui s'effondre, qui s'écroule.
Qui disparaît.
C'est une sorte de suicide de l'Europe dans un.
C'est un suicide collectif.
Un suicide collectif terrible.
Terrible parce que quand on énumère les choses qui n'existent plus,
Et puis toutes les conséquences tragiques, dramatiques, effarantes.
Qui s'en sont suivies. Et dont on vit encore les conséquences.
On porte encore les conséquences. Oui. Problème kurde, problème de l'Europe de l'Est, de l'ex-Europe de l'Est, etc. Rien n'est réglé.
Exactement. Alors avant de tourner une nouvelle page musicale, je voudrais citer Alain Denizet, président du prix du manuscrit de Beaussé-Dunois, qui a réussi à exprimer en une seule phrase ce que le premier tome de cette saga éveille en nous. Voilà ce qu'il a dit. « Ce roman est une perle qui joint à l'érudition la qualité de l'écriture. » Je félicite ce monsieur-là parce que je crois qu'il a sorti les mots de ma bouche et je repense exactement à la même chose. Voilà, alors une nouvelle pause musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi là, cette fois-ci?
Là, j'ai choisi la chanson de Bernard Lavillier, « Avec mes mains d'or », puisqu'on parle de métallurgie.
D'accord.
Et du drame de la métallurgie. Donc voilà.
Voilà, alors écoutons ça. Ou du moins quelques notes.
Quelques notes au moins.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial
fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge.
Dans cette dernière partie de notre émission Histoire d'en savoir plus sur Radio Grancière, nous continuons avec Olivier Cogent parler d'une saga riche en amour, en amitié, en événements, en histoire, et avec un H majuscule, sur une durée de 40 ans environ, où le monde a totalement changé. Cette saga a un joli titre, même poétique, « Le pays où vont mourir les rêves ». Alors comment avez-vous trouvé ce joli titre ? C'est vous qui en êtes l'auteur, l'inventeur ?
Oui.
Ou
oui.
C'est avec l'éditeur que vous avez éventuellement
L'éditeur,
décidé alors, ou...
Non, l'éditeur m'a fait retirer. Moi, j'avais mis « Le pays où s'en vont mourir les rêves ». Et mon éditeur a dit « Ce serait plus percutant de mettre « Le pays où vont mourir les rêves ». Donc, j'ai obtempéré.
Ben voilà, il fallait laisser. C'est lui qui en a l'habitude. En tout cas, c'est vraiment le... Je voulais dire aussi un peu, donc félicitations pour l'éditeur, parce que les livres sont... coloré d'extérieur, avec de très jolies images, et dans un petit... C'est comme une photo ancienne.
Un médaillon, oui.
Dans un médaillon, voilà, c'est magnifique, voilà.
Ah, si vous voulez, je peux dire une chose. Dans le premier tome, le médaillon du premier tome, c'est un dessin qui a été réalisé par mon grand-oncle Aristide, qui était à ce moment-là en Indochine.
En Indochine, voilà.
Comme il est dit dans le livre. Et voilà, j'ai donc retrouvé dans des anciens papiers ce dessin.
Donc ce soldat était en plus un artiste, n'est-ce pas ?
Voilà.
Alors en préparant l'émission avec vous, j'ai cru comprendre que certains personnages, puisque vous venez de le dire d'ailleurs, de ces trois tomes ressemblent... À des êtres que vous avez connus, ou bien vous êtes inspiré de ces personnes, de vos relations, de votre famille, ou de votre entourage, tout court.
Vous savez, un romancier fait feu de tout bois. Hein. Mmh. Donc, effectivement, je me suis servi de ma propre famille, de mes grands-parents, des gens que j'ai connus. Je me suis servi beaucoup des gens que j'ai connus pour fabriquer, pour concevoir des personnages. Des fois, avec plusieurs personnes que j'ai connues, j'ai fabriqué, si je puis dire, un autre personnage, en prenant deux, on en fait un troisième, etc. etc. Mais il y a une charge humaine, hein, qu'on ne peut pas... Les personnages, je pense surtout aux personnages de Jules et de Léontine Calac, qui sont très inspirés de mes grands-parents.
Des
piliers du roman. Et ils sont très proches, par certains côtés, de ce qu'étaient mes grands-parents, et je crois que je restitue un peu de l'affection que, bien des années après leur mort, je leur porte encore.
Vous avez dû faire beaucoup de recherches pour pouvoir nous amener, et vraiment on se croit, de faire partie du paysage dans des endroits aussi différents qu'un petit village de Ré-Loire, donc Saunières, dont nous avons parlé. L'intérieur d'une fonderie, une usine de chars d'assaut, des colonies lointaines, la vie dans un cuirassier ou bien sur un champ de bataille. Donc je trouvais que c'était vraiment, vraiment... Félicitations pour vos recherches, parce que c'est bien transcrit en tout cas.
J'ai été beaucoup aidé par mon entourage, si je puis dire. Je parle beaucoup de la marine, mais mon père était marin.
Ah oui.
Donc, il a été marin, il a fait l'école des mousses en 1930. Donc, si vous voulez, j'avais beaucoup de matière, même il a fallu transposer, faire des recherches sur ce qu'était la vie des apprentis marins avant 1914 ou pendant la guerre de 14. Mais enfin, j'avais une bonne base de travail. Quant à la fonderie, Mon grand-père est ouvrier fondeur, hein, donc et il en portait les stigmates. Il était gravement mutilé du travail, donc voilà, j'avais quand même de quoi, j'avais quand même de quoi réfléchir et j'avais une base de réflexion.
C'était vraiment un métier extrêmement cruel et dur.
C'était d'une dureté, difficile, qu'on n'imagine plus aujourd'hui.
Imaginez que voilà, les êtres humains, on a obligé de faire des choses pareilles et puis il n'y avait pas de solution.
C'était très très dur.
Alors les personnages de ces tomes, de ces romans, de ce roman, pardon, changent au cours des pages, bien sûr.
Ils vieillissent.
Et voilà, ça vieillit, change aussi l'attitude, non seulement les deux amis Joseph et Hubert, mais surtout les femmes, c'est ça qui m'avait beaucoup frappée. D'ailleurs, pour cette période-là, je crois qu'on peut dire que ce qui est vraiment changé, c'est la femme.
La condition de la femme.
Parce que, en fait, ces femmes se découvrent libres, deviennent capables et savent qu'elles sont capables de juger, surtout agir. Bien sûr. Vraiment, je vous félicite de les avoir si bien cernés.
La promotion de la femme va se faire presque tragiquement, puisque les hommes sont partis au front. Les femmes se retrouvent en charge de nourrir la famille, de travailler, de s'occuper des enfants, de prendre toutes les responsabilités. Et la condition de la femme va en être changée dans les années 20, y compris au niveau de la responsabilité parentale. On n'en est pas à aujourd'hui, mais on commence dans les années 20 à reconnaître que le père n'est pas tout et que
la mère a son importance
à la fois légale, d'éducatrice, etc. Donc, période très importante. Et puis, donc, je me suis appliqué à faire à camper un personnage de femme revendicatrice. Féministe avant l'heure.
Oui. Qui, à un moment donné, n'est plus si féminine que ça. Mais bon, il ne faut pas aller trop loin. Alors, après la guerre de 14-18, on va traverser les années folles, qui ne sont finalement ces années folles que des feux de paille, mais avec ces feux de paille, éclairent déjà ces nuages noirs qui s'amoncellent au-dessus de la tête des protagonistes et de notre siècle.
Et de toute l'Europe.
Exactement. On verra tout ça dans le tome 4 ou 5. Peut-être on en reparlera, j'espère, avec le temps. J'aurais voulu vous demander quel était le sens de ce titre. Quel est ce pays où vont mourir les rêves?
Écoutez, je crois qu'on vit en France dans un pays formidable.
C'est bien d'entendre dire ça.
À la fois beau, un pays en tout cas que j'aime. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des chômeurs, il y a du chômage, il y a de la misère, il y a des quartiers pauvres, etc., etc. Mais on est quand même dans un pays extraordinaire. Et ce pays, c'est le pays des rêves. Parce que quand on voyage un peu, quand on se promène à l'étranger, la France, ça fait rêver encore.
Voilà, on est contente de rentrer.
Voilà, la France fait rêver.
De retrouver les problèmes, tout ce qu'on voit.
La France fait rêver. La France fait rêver. Mais on ne peut pas se contenter de rêver.
Donc c'est un hommage à la France en même temps.
Je suis un amoureux de mon pays. Je ne suis pas nationaliste.
Je
suis un amoureux de ma langue, de la culture française. Je trouve qu'il y a des choses magnifiques chez nous.
Si on arrive à rester objectif, c'est vrai qu'on peut être toujours. On trouve le exactement ce qu'on doit penser et de dire.
Ce livre, c'est aussi un hommage à un petit coin de campagne anonyme que personne, qui est hors des grandes destinations touristiques.
Des grands chantiers,
Ce petit coin de campagne.
Nous font rêver.
Voilà.
Je crois que notre invité Olivier Cogent nous a fait rêver. Et va nous faire encore rêver, j'espère, lors de la parution des tomes suivants de ce livre, Le pays où vont mourir les rêves. Courez-y, comme on dirait ici, n'est-ce pas, à la campagne. Donc courez pour l'acheter. Je vous invite vraiment de les découvrir. Merci Olivier Cogent d'être venu. À bientôt peut-être pour
Merci à vous.
Après l'apparition, disons.
Bien sûr, merci.
Voilà, merci beaucoup.